Deuxième partie. La quête de la fondation. Chapitre 7. Arcadia. Darrell Arcady. Romancière, née le 5-11-362 de l'ère de la fondation, décédée le 7-1-443 de l'ère de la fondation. Bien qu'elle fût avant tout auteure de fiction, Arcady Darrell est surtout connue en tant que biographe de Beïta Darrell, qui n'était autre que sa propre grand-mère. Basée sur des documents de première main, la biographie de son aïeul a constitué pendant plusieurs siècles la source principale d'informations concernant le mulet et ses contemporains. De même que « La clé des souvenirs », son roman « Autant en emporte le temps » constitue une fresque historique passionnante, recréant dans ses moindres détails la brillante société calganienne du début de l'interrègne. Ce roman lui aurait été inspiré, selon certains, par une visite effectuée sur Calgan durant sa jeunesse. Encyclopédia Galactica. Arcadia Darrell déclama d'une voix ferme dans le micro de son transcripteur. L'avenir du plan Seldon par A. Darrell. Puis elle songea non sans amertume qu'un jour, lorsqu'elle serait devenue une grande écrivaine, elle pourrait enfin se permettre de signer tous ses chefs-d'œuvre du pseudonyme d'Arcady. Arcady tout court, juste le prénom. A. Darrell, c'était juste pour l'instant une espèce de mention officielle qu'elle était bien obligée d'apposer au bas de tous les devoirs qu'elle rédigeait en classe de dissertation et de rhétorique. Mais c'était d'une banalité. Tous les autres gamins étaient d'ailleurs logés à la même enseigne, à l'exception d'Olynthus Sale, toutefois, parce que, le pauvre, tout le monde s'était tellement moqué de lui la première fois qu'il avait dit son nom, qu'on avait décidé désormais de l'en dispenser. Sans compter qu'Arcadia, c'était un nom de petite fille. On l'en avait affublé en souvenir de son arrière-grand-mère qu'on appelait déjà comme ça, paraît-il. Décidément, ses parents n'avaient vraiment aucune imagination. Maintenant qu'elle avait 14 ans passés depuis 2 jours, on aurait pu croire qu'en reconnaissance de son accession au monde des adultes, on allait désormais l'appeler Arcady. Elle pinça les lèvres en se rappelant la réaction de son père. Il était en train de lire lorsqu'elle avait évoqué la question devant lui. Il s'était contenté de lever un instant les yeux de sa visionneuse, juste le temps de lui dire « Mais si tu veux te faire passer pour une fille de 19 ans, Arcadia, que feras-tu lorsque tu en auras 25 et que les garçons t'en donneront 30 ?» De là où elle se trouvait, affalée comme à son habitude en travers de son fauteuil préféré, elle apercevait le miroir posé sur sa commode coiffeuse. Son pied la gênait un petit peu pour le voir, à vrai dire, parce que sa pantoufle ne cessait de tourner autour de son gros orteil. Elle finit par se rechausser correctement et s'assit dans une pose anormalement rigide qui, pensait-elle, allongeait son cou de 5 bons centimètres et lui donnait une sveltesse royale. Elle resta ainsi un petit moment à considérer pensivement son visage. « Trop grassouillette, ma fille !» Elle desserra les mâchoires 1 centimètre, sans disjoindre les lèvres, et obtint ainsi un soupçon de maigreur parfaitement artificielle qu'elle inspecta sous tous les angles. Elle s'humecta les lèvres d'un rapide coup de langue et leur permit de s'épanouir un peu dans leur pulpeuse élasticité. Puis, elle laissa retomber ses paupières, affectant l'air blasé qui sied aux femmes d'expérience. Oh, zut alors! Non mais quelle guigne d'avoir encore des joues roses comme ça, à son âge! En étirant ses paupières du bout des doigts, elle s'efforça d'imiter la mystérieuse langueur exotique des femmes originaires des planètes intérieures. Mais comme, par la force des choses, ses mains cachaient une partie de son visage, elle n'arrivait pas à distinguer nettement l'effet obtenu. Elle leva ensuite le menton, se mit de demi-profil et les muscles des yeux quelque peu distendus par l'effort, puisqu'elle tentait néanmoins d'observer l'effet obtenu, le cou douloureusement contracté, la voix 1 octave au-dessous de son timbre normal, elle dit « Vraiment, père, si vous vous imaginez que je vais accorder la moindre attention à ce qu'une poignée de vieux imbéciles peut dire ou faire, ou penser, vous... » À ce moment, elle se souvint que le transcripteur était toujours branché, qu'elle tenait le micro à la main. et elle poussa alors un profond soupir. Oh, et puis zut! Et elle éteignit l'appareil. Sur la feuille de papier violet pâle ornée d'une ligne de marge couleur pêche, sur la gauche, elle put lire « L'avenir du plan Seldon ». « Vraiment, père, si vous vous imaginez que je vais accorder la moindre attention à ce qu'une poignée de vieux imbéciles peut dire ou faire ou penser, vous... » Oh, et puis zut !» Elle arracha la feuille de la machine avec dépit et la remplaça aussitôt par une autre qu'elle mit en place avec une précision millimétrique. Mais son visage perdit bientôt son expression vexée et sa petite bouche s'élargit en un sourire de satisfaction. Elle flaira le papier délicatement. Exactement ce qu'il fallait. La note juste d'élégance et de charme. Quant à la calligraphie sélectionnée, c'était le dernier cri de la mode. La machine avait été livrée l'avant-veille, le jour de son premier anniversaire d'adulte. « Mais, père, disait-elle depuis longtemps, tout le monde en a une dans ma classe. Absolument tout le monde. En tout cas, toutes celles qui ont la prétention d'en faire partie du monde. Il n'y a plus que les vieux nuls qui ont des machines à clavier. » Le vendeur avait déclaré « Aucun autre modèle n'est à la fois aussi compact et aussi polyvalent. La machine est capable d'orthographier et de ponctuer correctement en fonction du sens de la phrase. Elle constitue, à vrai dire, un auxiliaire précieux pour l'enseignant, car elle incite l'utilisateur à prononcer avec soin, à placer judicieusement sa respiration afin d'obtenir du premier coup une orthographe correcte, sans parler de l'élocution élégante et nuancée qu'exige une ponctuation appropriée. » Son père avait pourtant fait une ultime tentative. Il avait demandé à voir le modèle courant, celui qui ne produisait que des caractères d'imprimerie classique, comme s'il s'était agi de l'offrir à une vieille institutrice célibataire. Mais lorsqu'on vint la livrer, c'était bien le modèle qu'elle désirait. Sans doute l'avait-elle obtenu au prix d'un peu plus de pleurnicheries et de reniflements qu'il n'était convenable pour une adulte de 14 ans. Et les caractères imitaient à s'y méprendre une écriture charmante, résolument féminine, avec les majuscules les plus gracieuses et les plus belles qu'il fût possible de rêver. Même ce « Oh zut !» vous avez un je ne sais quoi d'envoûtant, après être passé par le mécanisme du transcripteur. Néanmoins, il fallait se conformer strictement aux instructions. C'est pourquoi elle s'assit bien droite sur sa chaise, plaça son brouillon devant elle en femme d'affaires expérimentée et recommença sa dictée, articulant nettement et clairement le ventre plat, la poitrine haute et la respiration soigneusement contrôlée. Elle commença avec sérieux et application, et même un brin de théâtralité. L'avenir du plan Seldon. L'histoire de la Fondation est, j'en suis sûr, bien connu de tous ceux qui, comme nous, ont eu la chance de pouvoir intégrer un système scolaire efficace, doté d'un personnel enseignant méritant. Je veux parler de celui de notre planète. Bon début et qui devrait bien la faire rentrer dans les bonnes grâces de Mademoiselle Earl King, cette maudite vieille sorcière. Cette histoire est en grande partie l'histoire du grand plan de Harry Seldon. Les deux ne font qu'un. Mais la question qui préoccupe aujourd'hui la plupart d'entre nous est celle-ci. Ce plan, qui témoigne d'une immense sagesse, continuera-t-il de s'accomplir ou sera-t-il finalement bêtement anéanti, si ce n'est déjà fait? Pour le comprendre, il serait peut-être préférable de passer rapidement sur les périodes glorieuses du plan, telles qu'elles ont été jusqu'ici révélées à l'humanité. Cette partie du devoir ne lui posait à vrai dire aucune difficulté. Car au cours du semestre précédent, elle s'était justement inscrite au cours d'histoire des temps modernes. Il y a près de 400 ans, au temps où l'Empire galactique, alors sur son déclin, s'acheminait lentement mais sûrement vers une paralysie annonciatrice de la fin définitive, un homme, le grand Harry Seldon, sut prévoir cette fin imminente. Grâce à la science de la psychohistoire, science mathématique d'une infinie complexité dont le secret s'est perdu il y a déjà fort longtemps. » Elle s'interrompit, prise d'un léger doute sur l'orthographe de complexité. Bon, après tout, la machine ne pouvait guère se tromper. Il put, avec le concours de ses collaborateurs, prévoir l'évolution des grands courants sociaux et économiques qui allaient broyer la galaxie à cette époque. il leur fut possible d'établir que, abandonné à lui-même, l'Empire ne manquerait pas de s'effondrer et que sa chute serait suivie d'au moins 30 000 ans de chaos et d'anarchie avant qu'il fût possible d'édifier un nouvel empire. Il était trop tard pour prévenir le fatal écroulement, mais il demeurait au moins possible de réduire la période intermédiaire de chaos. Un plan fut alors établi, au terme duquel un simple millénaire séparerait désormais le second empire du premier. Nous arrivons au terme du 4e centenaire de ce millénaire, et bien des générations d'hommes ont vécu et se sont éteintes, cependant que le plan poursuivait sa marche inexorable. Harry Seldon avait érigé deux fondations, l'une étant située à l'autre bout de la galaxie par rapport à l'autre, suivant une méthode telle qu'elle fournirait la meilleure solution mathématique à son problème psychohistorique. L'une de ces deux fondations, la nôtre, installée ici même sur la planète Terminus, recueillit toutes les connaissances de l'Empire dans le domaine des sciences physiques. Grâce à ces connaissances, cette fondation fut en mesure de résister victorieusement aux attaques des royaumes barbares qui avaient fait sécession et proclamé leur indépendance aux marches de l'Empire. La fondation réussit à reconquérir ces royaumes éphémères sous la conduite d'une série d'hommes sages et héroïques tels que Salvor Hardin et Aubert Mallow, qui surent interpréter le plan avec intelligence et guider notre nation vers des jours meilleurs en dépit de la... Elle avait écrit à nouveau « complexité », mais se ravisa et décida de limiter les dégâts au cas où. Complication de ce plan. Toutes nos planètes honorent encore leur mémoire en dépit des siècles écoulés. Finalement, la Fondation établit un système commercial qui s'étendait sur une grande partie des secteurs galactiques sous contrôle siwénien et anacréonien. Et elle mit même en déroute les restes du vieil Empire sous le commandement de leur dernier grand général, Bel Rioz. Il semblait que, désormais, rien ne pourrait plus s'opposer au déroulement du plan Seldon. Toutes les crises prévues par Seldon, surgies au moment déterminé par ses calculs, avaient été résolues de façon satisfaisante, et à chaque étape, la Fondation avait avancé d'un nouveau pas de géant vers le Second Empire et la paix. C'est alors, à ce point de son exposé, un changement très net s'opéra dans sa diction. Le souffle court, visiblement tendue, elle se mit à parler d'une voix sifflante, empreinte d'émotion. Mais le transcripteur se contenta de les écrire avec le même calme et la même grâce qu'auparavant. Qu'après la disparition des derniers débris du défunt empire, et tandis qu'une nuée de petits seigneurs de la guerre sans envergure exerçait leur autorité brouillonne sur les dépouilles éparses du colosse terrassé, Arcadia avait emprunté cette phrase mot pour mot à une dramatique qu'elle avait vue à la vidéo pas plus tard que la semaine précédente. Mais comme Mademoiselle Earl King s'intéressait exclusivement aux symphonies et aux conférences, elle n'en saurait jamais rien, elle. Apparut le mulet. Cet homme étrange n'avait pas été prévu dans le plan. Il s'agissait d'un mutant dont l'apparition était par nature imprévisible. Il possédait l'étrange et mystérieux pouvoir de diriger et de modeler à sa guise les émotions humaines, et de cette manière, il pouvait plier tous les hommes à sa volonté. Avec une rapidité foudroyante, il se transforma en conquérant, en bâtisseur d'empire, et finit par écraser la Fondation elle-même. Néanmoins, il ne parvint jamais à établir sa domination sur l'univers, car en dépit de sa puissance écrasante, il fut arrêté dès sa première tentative par la sagesse et l'audace d'une femme de grand mérite. Et voilà qu'une fois de plus, elle se trouvait aux prises avec le même problème. Sur les instances formelles de son père, il lui était interdit de mentionner qu'elle était la petite fille de Beïta Darel. Tout le monde le savait, et Beïta était sans doute la plus grande femme de tous les temps. Sans aucune aide, elle avait su mettre un terme aux exploits du mulet. Au cours d'une action dont les circonstances exactes ne sont connues que de quelques-uns. Là, si on lui demandait de lire son devoir en classe, elle prononcerait ce dernier passage d'une voix caverneuse, et quelqu'un ne manquerait pas de demander des explications sur les circonstances en question. Et alors, pourrait-elle se dispenser de dire la vérité si on l'interrogeait ? En esprit, elle improvisait déjà un plaidoyer éloquent et peiné devant une autorité paternelle sévère et inquisitrice. Après 5 ans d'un pouvoir autoritaire, un autre changement intervint, dont les raisons ne nous sont pas connues. et le mulet abandonna brusquement tous ses projets de conquête ultérieure. Les 5 dernières années de son règne furent celles d'un despote éclairé. Certains prétendent que le changement d'attitude du mulet fut provoqué par l'intervention de la seconde fondation. Néanmoins, nul n'a jamais découvert l'emplacement exact de cette autre fondation, nul ne connaît son rôle avec précision, si bien qu'aucune preuve n'est jamais venue confirmer cette thèse. Une génération entière s'est écoulée depuis la mort du mulet. Que nous réserve l'avenir maintenant qu'il n'est plus là? À son apparition, le cours du plan Seldon avait été interrompu et tout indiquait qu'il l'avait fait voler en éclats. Cependant, il n'eut pas plus tôt disparu que la fondation surgit de plus belle, telle une nova qui renaît des cendres refroidies d'une étoile mourante. Cette phrase-là, elle l'avait inventée elle-même. Une fois de plus, la planète Terminus abrite le centre d'une fédération commerciale presque aussi importante et aussi prospère que celle d'avant la conquête, mais également plus pacifique et plus démocratique. Ce processus s'insère-t-il dans un plan général? Le grand rêve de Seldon est-il toujours vivace? Et peut-on envisager que, d'ici 600 ans, un second empire galactique viendra prendre la succession du premier? Personnellement, je le crois, parce que jamais... Elle abordait à présent le passage le plus important. C'est toujours ce passage-là que Mademoiselle Earl King avait coutume d'annoter au stylo rouge de ses affreuses pattes de mouche.
« Votre exposé est strictement descriptif. Quelles sont vos réactions personnelles? Réfléchissez, exprimez vos propres sentiments. Pénétrez au plus profond de votre âme. »
Qu'est-ce qu'elle en savait, elle, des âmes, avec son teint de citron pressé, cette vieille chouette qui de toute sa vie n'avait jamais dû sourire une seule fois? À quelque époque que ce fût, la situation n'a été aussi favorable. Le vieil empire n'est plus qu'un souvenir, et le règne du mulet a mis fin à l'ère des seigneurs de la guerre qui l'avait précédé. La plus grande partie des régions périphériques de la galaxie est civilisée et pacifique. De plus, l'organisation socio-économique de la Fondation est plus saine que jamais. L'ère despotique des maires héréditaires de la préconquête a cédé le pas aux élections démocratiques des premiers temps. Il n'existe plus désormais de monde dissident, plus de marchands indépendants. Il a été mis un terme définitif à la concentration abusive des richesses entre les mains de quelques privilégiés, avec le cortège d'injustices et de bouleversements sans nombre qui l'accompagnaient. Il n'y a donc aucune raison de redouter un échec, à moins que la seconde fondation elle-même ne constitue un danger. Ceux qui le prétendent n'apportent aucune preuve de leurs allégations. Seulement de vagues terreurs et des superstitions. Je crois fermement que notre confiance en nous-mêmes, en notre nation, dans le grand plan de Harry Seldon, sera de nature à chasser de notre esprit toutes les incertitudes et... Pas très original ce passage. Et furieusement guimauve. Mais les conclusions sont toujours un peu comme ça. C'est la tradition. C'est pourquoi j'affirme... La rédaction de l'avenir du plan Seldon s'acheva sur ces mots, du moins dans l'immédiat, car on était en train de frapper très discrètement à la fenêtre de la chambre. Et lorsqu'Arcadia se dressa en équilibre sur l'un des bras du fauteuil, elle se trouva nez à nez avec un visage souriant de l'autre côté de la vitre, dont la régularité des traits était accentuée de façon intéressante par la courte ligne verticale d'un doigt posé devant les lèvres. Après un bref silence nécessaire pour prendre une attitude de surprise, Arcadia mit pied à terre, se dirigea vers le divan disposé au pied de la large fenêtre qui servait de cadre à l'apparition, s'y agenouilla et dirigea vers l'extérieur un regard pensif. Le sourire qui éclairait le visage de l'homme s'évanouit rapidement. Tandis que les doigts de l'une de ses mains se contractaient sur le battant, l'autre fit un geste rapide. Arcadia obéit avec calme et fit pénétrer doucement dans son logement mural la poignée du tiers inférieur de la fenêtre, laissant la tiède brise de printemps venir perturber l'atmosphère conditionnée de la pièce. « Vous ne pouvez pas entrer, » dit-elle avec coquetterie. « Toutes les fenêtres sont équipées d'un écran de protection réglé pour ne laisser passer que les gens qui habitent ici. » Si vous insistez, il y a tout un tas de signaux d'alarme qui vont se déclencher, et ça va faire un boucan pas possible, je vous préviens. Elle ajouta, après un bref silence, « Vous me paraissez en équilibre bien précaire sur la corniche. Si vous n'y prenez garde, vous allez tomber, vous écraser, et écraser en même temps des fleurs très rares qui valent très cher. »
« Dans ce cas, »
dit l'homme qui avait apparemment envisagé cette éventualité, en se servant d'un vocabulaire quelque peu différent,
« auriez-vous la bonté de débrancher l'écran et de me faire entrer ?»«
Je n'en vois pas l'utilité, » dit Arcadia.
« Vous vous trompez probablement de maison, car je ne suis pas de ces filles qui introduisent des étrangers dans leur chambre à coucher à cette heure de la nuit. »
En prononçant ces paroles, elle avait donné à ses paupières une lourdeur ensommeillée, ou du moins une imitation acceptable de cette apparence. Toute trace de gaieté avait disparu du visage du jeune étranger.
« C'est bien ici la maison du docteur Darrell, n'est-ce pas ?»«
Pour quelle raison, vous le dirais-je ? » ?»«
Par la galaxie, puisque c'est comme ça, je vous dis au revoir. »«
Si vous sautez, jeune homme, je me chargerai personnellement de donner l'alarme. »
Elle pensait, par ce trait, faire preuve d'une ironie raffinée et sophistiquée, car, aux yeux d'Arcadia, l'intrus avait largement atteint la trentaine. Un vieux, en d'autres termes. Un long silence.
« Eh bien, ma chère fillette, » dit l'autre d'un ton concentré, « si vous ne voulez pas que je reste, et si vous ne voulez pas que je m'en aille, dites-moi ce que je dois faire. »
« Je crois que je vais vous laisser entrer, finalement. Le docteur Darrell habite effectivement ici. Je vais couper l'écran tout de suite. »